BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Et si l'on pouvait interpréter à distance le moindre bruit dans une pièce pour détecter une chute, une respiration anormale, un vomissement, eh bien c'est ce que fait l'entreprise Ozoaï qui a créé une véritable oreille augmentée pour les soignants. Son président et cofondateur Olivier Menu est avec nous pour nous la présenter. Saviez-vous que le médicament était lui-même très polluant depuis sa conception jusqu'à son transport et surtout quand il est mal pris par le patient ? Laetitia Hible, présidente de Pharmasystème Qualité, accompagne justement les pharmacies dans une démarche de qualité pour aboutir à une certification. Enfin, Jessica Weddle, partenaire Life Science chez Deloitte, va nous dire pourquoi les changements environnementaux et sociaux ont un impact sur le développement de nouveaux médicaments. Check-up santé, c'est parti. Olivier Menu, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes ingénieur à la base.
Oui, tout à fait.
Vous êtes à Grenoble.
Oui.
Et vous êtes CEO et surtout cofondateur de Ozoaï avec trois autres cofondateurs, je crois.
Oui, complètement.
On peut citer leurs noms, ça va leur
bien
faire
sûr,
plaisir.
Bien sûr, Claude Birou, ouais. Gilles Debune et Philippe Regadas.
Alors, donc votre entreprise a été créée il y a à peu près 5 ans.
Il y a 5 ans, oui.
Et vous êtes à Brest, c'est ça?
Oui, l'entreprise est basée à Brest et moi je suis à Grenoble, donc je me partage entre Grenoble et Brest.
Une entreprise qui marche super bien, on va le voir. Donc combien de collaborateurs?
On est une cinquantaine aujourd'hui.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Une cinquantaine qui sont donc tous à Brest.
Oui, principalement à Brest, mais on a aussi une présence à Toulouse et une présence à Paris.
Alors, comment vous est venue l'idée de vous intéresser au son et surtout à leur interprétation ?
Le point de départ, c'est vraiment de réaliser que quand vous êtes assis chez vous, par exemple, dans votre canapé, là, que vous fermez les yeux, que vous écoutez, ben, rien qu'avec une oreille, vous êtes capable de comprendre très très finement ce qui se passe chez vous. Vous comprenez qui se déplace dans le couloir, vous comprenez ce que font les enfants ou pas dans la chambre, et vous comprenez si vous devez ou pas intervenir. Donc ça a vraiment été le point de départ, le point de départ d'Ozoaï.
Ce que font un peu les non-voyants, non ?
Oui, tout à fait.
Oui, beaucoup plus fine, du coup. Oui.
Complètement. Ils ont surdéveloppé leur oui pour compenser.
D'accord. Donc, c'est ça qui vous a fait.
Ouais, ça a été le point de départ. Après, il y en a eu un deuxième aussi, c'est de réaliser que dans le médico-social, dans les EHPAD, on a pas plus de 15% des résidents qui ont les capacités cognitives d'utiliser les appels malades à bon escient. Mmh. Donc au final, c'est très peu utilisé. Et puis s'ils ont un problème, eh ben, sur l'instant, ils oublient de l'utiliser. Donc ça veut dire que les soignants ne peuvent pas vraiment s'appuyer sur les appels malades et les résidents non plus. Donc on est vraiment parti sur ce sujet.
On va en reparler. Ouais. On va en reparler. Donc, vous avez donc conçu une oreille augmentée pour les soignants, donc grâce à l'intelligence artificielle. Comment ça marche ?
Alors, l'oreille augmentée des soignants, c'est un petit boîtier que vous collez littéralement sur le mur des chambres. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'installation. Il est collé sur le mur de la chambre, il écoute les sons, il les analyse, et lorsqu'il a trouvé quelque chose d'anormal, eh ben, il alerte le soignant. Mm-hmm. Le quelque chose d'anormal, ça peut être... Comme vous
donc, le soignant est connecté, évidemment.
Oui, le soignant, il reçoit les alertes sur un petit smartphone qu'on lui remet.
D'accord.
Les alertes apparaissent sous forme d'un petit SMS et le soignant a la possibilité de réécouter lui-même les quelques secondes de son qu'on a jugé suspicieux. Et ça, c'est extrêmement important dans la philosophie de l'oreille augmentée des soignants. On fournit une information supplémentaire au soignant, mais on lui laisse décider de la suite qu'il souhaite donner à cette alerte.
D'accord, donc vous avez utilisé l'intelligence artificielle.
Ouais.
D'accord, donc ça veut dire que vous avez été obligé d'aller récolter des sons, des bruits un peu partout ?
Oui, exactement. Alors, l'IA, on nous en tartine à longueur de journée dans les journaux et ainsi de suite. Mmh. Chez nous, c'est extrêmement concret. On a construit depuis 2019 une base de données massive de sons du médico-social annotés. Mmh. Des vomissements, des portes, des bruits de déambulateurs, des bruits de chute, tout l'environnement sonore. On s'est servi de cette base de données massive pour entraîner nos systèmes, un peu comme on apprend un enfant à lire en fait. Bah, lui, on lui a appris à écouter. Donc on l'a entraîné pour qu'il aujourd'hui soit capable de reconnaître plus de 150 classes de sons avec les performances de l'oreille humaine.
Donc c'est une base de données mais que vous dites unique
au monde. Oui, tout à fait.
Oui, donc vous pouvez reconnaître 150
classes de son.
Classes de son. Donc des exemples ?
Bah, des exemples, ça peut être le bruit d'une porte, le bruit d'une chaise qu'on déplace, le bruit de drap que l'on froisse, le bruit d'une personne qui se retourne dans un lit, le bruit d'une personne qui déambule, le bruit d'une personne aux toilettes, le bruit d'une personne qui prend une douche. Tout cet environnement sonore extrêmement riche
Sauf nous que comprenons. C'est vous qui allez faire, donc qui allez sélectionner ces bruits et envoyer donc une alerte si, s'il faut, donc aux soignants. C'est bien ça.
Ouais. Alors c'est notre intelligence artificielle qui automatiquement, toute seule, là, détecte ce qui est anormal et envoie une alerte aux soignants.
Donc elle va faire le tri, elle va détecter.
Elle va faire le tri, c'est exactement ça, c'est elle fait le tri.
Et c'est fiable, j'imagine.
Ah oui, c'est très très fiable aujourd'hui.
On peut dire, que vous avez obtenu pas mal de prix quand même. Hein.
Oui, on a obtenu tout un ensemble de distinctions de l'Agence du numérique en santé, de la NAP, du ministère de la Santé, de la Société française de gériatrie. Donc on a récolté tout un ensemble de distinctions et de reconnaissances quelque part. Et notre système aujourd'hui, il est extrêmement fiable sur les chutes, par exemple, parce que c'est un cas un peu symptomatique. On les détecte à 98% en fait.
Oui, c'est énorme.
Et c'est pas magique. Notre système fonctionne un petit peu comme un rasoir qui aurait plusieurs lames. La première lame du rasoir, c'est on détecte le bruit de la personne qui tombe. Et puis si jamais il n'y a pas de personne qui tombe, eh ben, on va regarder, on va écouter, est-ce qu'il y a un gémissement ? S'il n'y a pas de gémissement, est-ce qu'il y a un cri ? S'il n'y a pas de cri, est-ce qu'il y a un appel à l'aide ? Et ainsi de suite. Donc quand on met tous les lames du rasoir les uns derrière les autres, et bien on arrive à cette performance de détection de 98%.
Donc finalement, ça permet de faire des économies de santé, puisque là vous aidez, vous assurez un meilleur suivi qui est plus sécurisé à distance des personnes, surtout de personnes fragiles.
Complètement. Donc on améliore la prise en charge des résidents, des personnes fragiles, donc ça c'est certain. On les laisse pas au sol pendant des heures, on les laisse pas souffrir pendant des heures non plus, on les laisse pas dans des situations critiques non plus pendant des heures.
Ça évite de faux appels aussi, non ?
Bien sûr, ça évite de faux appels. Et puis après, sur l'autre bout du spectre, on améliore la qualité de vie au travail des soignants. Et notre outil devient carrément un argument de recrutement pour les établissements de santé. Venez chez nous, il y a l'oreille augmentée. Allez pas chez lui, il n'y a pas l'oreille augmentée.
Alors finalement, donc ça veut dire que vous travaillez principalement avec les établissements de santé ?
Alors, on travaille principalement avec dans toute la sphère du médico-social et du sanitaire. Donc ça veut dire qu'on est présent dans des EHPAD, ça veut dire qu'on est présent aussi dans des établissements handicap, des foyers d'accueil médicalisés, des MAS, des foyers de vie, et on est aussi présent dans le sanitaire, principalement dans des services des SSR, des USLD, des services spécialisés, notamment pour personnes âgées.
D'accord. C'est vrai que vous remplacez l'appareil, le petit bouton pour petit bouton d'alerte.
Ah oui, complètement. On remplace ce bouton d'alerte qui, au final, ne fournit que des informations extrêmement extrêmement borgnes.
Et vous occupez déjà, vous êtes dans plusieurs chambres d'établissement.
Ah oui,
vous occupez plusieurs chambres.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on équipe plus de 2000 chambres en France et on est dans une croissance de déploiement extrêmement rapide.
On pense, voire à l'international ?
Ouais, on pense dépasser les 6000 chambres en France d'ici la fin de l'année et on a déjà nos premières ventes à l'international. D'accord. Donc l'international pour nous, c'est l'Europe et également l'Asie. Donc on est en train de partir au Japon.
Parce que vous êtes les seuls à utiliser ce genre de...
Aujourd'hui, on est les seuls au monde à avoir ce produit. Donc, on est les seuls au monde à détecter les vomissements, on est les seuls au monde à détecter toute cette grande variété de sons qui, au final, a une grande importance dans cet univers du médico-social et toujours au bénéfice des personnes fragiles et de ceux qui s'en occupent.
Vous avez fait plusieurs levées de fonds pour...
Oui, on a levé en tout 14 millions d'euros auprès de trois fonds d'investissement, Innovacom, CEMAG Invest et la région Bretagne. Alors je le mentionne ici notamment, nous c'est pas banal, on a la région Bretagne au capital de l'entreprise. Et d'accord, on en est très content. Ouais.
Et juste pour terminer, donc votre business model, donc c'est sous ça, vous procédez par abonnement ?
On a deux types de modèles. On a un modèle sur abonnement et puis on a un deuxième modèle avec la possibilité pour nos clients d'investir et d'acheter le matériel et derrière de rajouter un contrat de maintenance.
D'accord. Et ça marche bien ?
Ça marche très bien.
Oui, ouais, j'imagine que vous avez une croissance.
On a une croissance.
À deux chiffres.
On a une croissance qui est très très forte. Et surtout, ce qui nous satisfait le plus, c'est que nos clients sont contents. Parce que mine de rien, pour un industriel ou un entrepreneur, avoir des clients qui sont contents, qui nous recommandent et qui revendiquent tout le bien qu'ils pensent de Zoaï, c'est quand même extrêmement important.
Eh ben, c'est comme les invités de Checkup Center. Ils sont toujours contents. Merci.
On est très fiers de notre produit. On est très fiers de nos clients.
Ben, vous pouvez. C'est franchement original et j'ai vu très efficace. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Olivier Menu. On va à présent accueillir Laetitia Hible, qui est présidente de Pharma System Qualité.
BFM Business. Checkup Santé. Au cœur de l'innovation santé.
Laetitia Hible, bonjour.
Bonjour Fabien.
Merci et ravi de vous voir sur dans Check-up Santé. Vous êtes pharmacien donc à l'origine et vous êtes présidente de Pharma Système Qualité. Pharma Système Qualité, c'est une association, c'est ça ?
Oui, c'est une association qui a été créée en 2009 par deux pharmaciennes et qui a été créée sur le besoin que les pharmaciens ont aujourd'hui à mettre en place une organisation afin de sécuriser leur exercice officinal.
Donc vous accompagnez donc les pharmacies donc à mettre en place une espèce de démarche
une certification ISO 9001 qu'on appelle ISO 9001 QMS Pharma. Et donc aujourd'hui on a 2800 pharmacies qui sont engagées dans cette démarche et on est partenaire de 18 groupements.
De 18 groupes d'anciennes pharmacies, de groupes de pharma.
Des groupements de pharmaciens.
D'accord.
Des groupements de pharmaciens.
Que des groupements ou vous avez aussi quelques indépendants ?
Non, effectivement, il y a 350 pharmacies indépendantes qui participent à l'aventure de la qualité aujourd'hui.
Ça n'a pas l'air facile pourtant de travailler avec des pharmaciens qui sont surchargés de boulot, non ?
Ouais,
comment vous faites ?
Eh bien, l'idée, c'est de leur faire...
Vous allez nous dire comment, mais là, comment vous faites pour...
Pour les convaincre. C'est de leur faire comprendre que c'est un investissement en temps, en énergie, peut-être en RH aussi, mais qui leur en fera gagner par la suite.
Ah, et en argent aussi, donc.
Et en argent aussi. On a un retour sur investissement qui est reconnu, et plus les pharmaciens s'investissent dans la démarche, plus ils reconnaissent ce retour sur investissement.
Ouais, donc ils sont assez volontaires, non, ou pas ?
Oui, on a 80% de réengagement, on a des cycles triennaux, et 80% des pharmacies se réengagent, donc c'est quand même un signe.
Et puis vous êtes déjà à 2700 en pharmacie, c'est presque
13% du réseau.
Oui, d'accord. Alors justement, donc vous arrivez dans la pharmacie et vous allez faire un audit, d'accord ? Vous allez voir. Vous allez analyser ce qui se passe.
C'est ça. Les pharmacies d'abord commencent par une auto-évaluation pour savoir de où ils partent, puisqu'aucune pharmacie ne part de zéro aujourd'hui. On va les accompagner sur l'organisation, mais également sur leur cœur de métier pharmacien. Et Dieu merci, heureusement, les pharmacies ne commencent pas à zéro en cœur de métier. Ils sortent de 6 ans d'études, donc forcément, ils ont déjà des qualifications. Donc, ils font une auto-évaluation et une fois tous les 3
avec
ans...
Avec certains critères et certaines
questions. Absolument, il y a 150 questions qui touchent les différents univers, l'accueil du patient, le back-office, le préparatoire, la PDA s'ils en font et on vérifie.
Les questionnaires sont fiables, le pharmacien n'a pas intérêt à
non, le faire. Ben justement ça pouvait être une crainte, mais on s'aperçoit lorsqu'on les audite, puisqu'ils sont audités au moins une fois tous les 3 ans, qu'à 95% ils avaient répondu correctement à cette auto-évaluation. Ils auraient même tendance à se sous-évaluer.
De se sous-évaluer.
Ouais. Puisqu'en fait, la réponse à un questionnaire, c'est acquis en cours d'acquisition ou non acquis. Et souvent, l'auditeur arrive et estime comme acquis tel domaine, alors que le pharmacien avait plutôt répondu en cours d'acquisition.
D'accord. Vous pouvez nous donner quelques exemples de critères
Dans
l'évaluation,
dans l'accueil du patient, par exemple, on va faire attention au questionnement qu'il y a, par exemple, lorsqu'il y a une demande sans ordonnance. C'est pour qui, c'est pourquoi, depuis quand, il y a toute une liste de questions qu'on demande aux pharmaciens de mettre en place. Dans l'organisation, on va s'assurer qu'il y a, par exemple, la bonne procédure des retraits de l'eau. Vous savez que les retraits de l'eau, c'est quelque chose d'important et d'immédiat, puisque ça touche la santé, donc il faut que ce soit immédiat dans la pharmacie. Et donc, on vérifie que cette procédure est bien en place. On vérifie qu'il y a bien les contrôles qui sont faits au niveau du préparatoire. On vérifie que le réglementaire, puisqu'on est une profession qui est ultra réglementée, que même le réglementaire basique en termes d'affichage...
Parce que vous avez déjà travaillé dans un grand groupement
de pharmaciens, oui. Et même le réglementaire, puisqu'on on a le réglementaire lié au cœur de métier pharmacie, mais il y a le réglementaire aussi lié à l'entreprise, puisqu'on est chef d'entreprise aussi en tant que pharmacien. Donc on a beaucoup de contraintes et on s'aperçoit que ces contraintes-là sont bien appréhendées et on peut cocher OK sur le...
D'accord, et à partir de là, donc vous êtes force de proposition quand même.
Oui, alors on apporte...
Pour améliorer les choses.
C'est ça, en fait, à partir de l'auto-évaluation qui permet aux pharmaciens de voir où ils se situent, on arrive à déterminer quels sont les axes d'amélioration ou de développement important dans son officine et on va l'accompagner. Alors soit nous directement lorsqu'il s'agit des pharmacies indépendantes, soit dans les groupements de pharmaciens, il y a des responsables qualité qui vont les accompagner à cette amélioration. Il y a une notion importante dans la qualité, c'est l'amélioration continue. On part de quelque chose et on progresse petit à petit. Et c'est comme c'est un projet d'équipe, on progresse tous ensemble. Pardon.
D'accord. Donc vous avez différents types, évidemment. Vous avez des outils format papier, des guides.
On a des outils format papier, on a un logiciel de qualité officinale, puisque aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes pharmaciens et le papier papier, le crayon, c'est pas leur truc. Donc du coup, on a dématérialisé depuis 2019 toute la traçabilité qui est liée à la qualité. Donc un logiciel qui est très utilisé, puisqu'aujourd'hui plus de 2000 pharmacies sur les 2700 l'utilisent, et avec différents outils de traçabilité, d'appel aux médecins par exemple, de dysfonctionnement, les problèmes d'erreurs de dispensation, ça peut arriver, on a affaire à de l'humain, donc ça peut arriver. Et puis les cahiers de transmission qui sont les outils qui permettent aux différents membres de l'équipe de se parler lorsqu'ils ne sont pas en présence.
Et quand vous vous donnez cette certification, est-ce que le patient lui-même le sait ou pas? Est-ce que c'est marqué quelque part?
Il y a une affiche à l'entrée de la pharmacie. Aujourd'hui, c'est vrai que on pense que les patients clients qui rentrent dans les officines sont peu sensibles à cette certification. C'est vrai qu'il y a beaucoup de certifications en route aujourd'hui, un peu dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, je dirais qu'un pharmacien qui s'engage le fera moins pour cette affiche qu'il mettra au début de sa pharmacie que pour le gain en termes d'organisation et de sécurisation de ses actes.
Alors, pour finir, vous proposez aussi un label d'éco-responsabilité.
Oui, le pharmacien aujourd'hui, en tant que citoyen, en tant que professionnel de santé, en tant que chef d'entreprise, se devait de réfléchir à son implication dans l'éco-responsabilité. Et donc, il y a en 2020, ça va faire 4 ans maintenant, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait aider ce pharmacien, parce que quand on dit éco-responsabilité à l'officine, on n'a rien dit finalement. Et donc, par quoi on va commencer, comment on peut réfléchir à la mise en place de mesures éco-responsables. Donc, on a travaillé avec un groupe pilote, on a eu des pharmaciens qui ont répondu à un questionnaire. Déjà, on voulait savoir si cette thématique les intéressait. Et en fait, effectivement, cette thématique les intéresse beaucoup.
Ouais. Les patients, l'idée, c'est de décarboner la pharmacie, quoi.
Décarboner l'action, enfin l'exercice officinal, mais également il y a un point important aussi pour le pharmacien, c'est que comme 4 millions de personnes rentrent dans les pharmacies chaque jour, c'est que on voulait faire du pharmacien aussi un point de formation ou d'information pour les patients.
Alors, peu de gens savent que le médicament lui-même est très polluant.
Le médicament pollue beaucoup, alors c'est un paradoxe puisqu'il soigne, il guérit, mais d'un autre côté il pollue également beaucoup. Il pollue par sa fabrication puisqu'on sait que les matières premières, maintenant on le sait, depuis Covid, on le sait, et elles sont majoritairement fabriquées en Inde ou en Chine.
Par sa distribution ?
Par sa distribution, parce qu'il faut qu'il vienne. Je crois qu'il fait plusieurs fois le tour de la Terre avant d'arriver sur notre comptoir. Et également, lorsqu'il est bien administré, bien pris par le patient, il pollue également par ses métabolites, c'est-à-dire les déchets.
Et surtout aussi quand il est mal pris.
Et surtout quand il est mal pris, ou pire, pas pris du tout.
C'est ça.
Donc aujourd'hui, on encourage les pharmaciens à basiquement faire leur métier de pharmacien. C'est-à-dire accompagner les gens dans une éducation thérapeutique qui leur explique pourquoi ils prennent ce traitement, de façon à les encourager à le prendre jusqu'au bout. Et derrière, on les encourage également à bien gérer les MNU, les médicaments non utilisés qui reviennent à l'officine.
Là aussi, vous proposez par exemple pour les distributeurs de médicaments qui passent 3 fois par jour.
Oui, c'est ça. On s'est aperçu justement en faisant notre enquête auprès de nos pharmaciens qu'il y avait une grande disparité de passage, mais que globalement, il y a énormément de personnes qui viennent à l'officine apporter des médicaments. Il y a les grossistes répartiteurs qui peuvent passer de 1 à 3 fois en fonction des officines. Et il y a également énormément de transporteurs qui viennent porter des colis. Je crois que c'est 3000 cartons qui arrivent en moyenne dans les officines chaque année. On a des chiffres, on a 39% des présentoirs qui arrivent à l'officine qui ne sont pas désirés, par exemple. Donc, beaucoup de transports à réguler.
Il vous arrive de ne pas donner de certification ?
Ou alors,
ça ne dépend pas de vous ?
Alors, pour ce qui concerne l'éco-responsabilité, on est sur la phase pilote puisqu'on a commencé en janvier. On a 135 pharmacies engagées. Pour ce qui est de la qualité, on a un organisme certificateur. Et effectivement, lorsqu'une pharmacie ne présente pas tous les critères qu'elle devrait présenter, on la met une année entre parenthèses. Et si elle n'a pas levé ses écarts, on la sort. Oui.
Laetitia, merci beaucoup, présidente de Pharma Système Qualité. On vous donne la certification Check-up Santé, c'est sûr.
Merci.
Et vous revenez quand vous voulez.
Avec
plaisir. On va à présent accueillir Jessica Weddle, associée Life Science chez Deloitte.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Jessica Weddle, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors, vous êtes associée Life Science chez Deloitte. Vous avez une connaissance approfondie des systèmes de santé américains et européens.
Oui.
Et vous conseillez d'ailleurs régulièrement l'industrie pharma sur de nombreux sujets. Et il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est l'impact des changements environnementaux et sociaux sur le développement d'ailleurs de nouveaux médicaments. Changement climatique, déclin de la biodiversité, sécheresse, cet impact est important ?
Oui. C'est très important. Et ce qui est très commun et partagé, c'est l'impact climatique va impacter les systèmes de santé.
D'accord.
Il faut adapter notre système de santé. Je crois que c'est une opinion qu'on partage. Mais c'est un problème difficile à résoudre parce que ça exige les États, les gouvernements, les ONG, la communauté internationale. Ouais. Et donc, c'est un problème systématique. Là, ce qui m'intéresse surtout, c'est quel est le changement climatique et l'impact et les implications pour les laboratoires pharmaceutiques.
Et leur stratégie
Et leur stratégie. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Mm-hmm. D'abord, il y a un élément sur les maladies transmissibles. Mm-hmm. Donc, malaria, la dengue. Là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'avec les températures qui changent, dans les deux sens, l'humidité, le vent, en fait, les maladies, la propagation des maladies transmissibles, ça augmente.
Vous dites que quand le climat change, les maladies changent.
Oui, c'est ça, c'est simplement ça, et surtout les maladies transmissibles. Donc, par exemple, on voit beaucoup plus de la dengue, qui est historiquement une maladie associée avec les pays en voie de développement. Ouais. On n'en pense même pas en France, alors qu'en France, en 2022, il y a 65 cas, ça c'est plus de cas dans les 10 ans précédents. Donc on voit qu'il y a des maladies transmissibles dans les pays riches, donc on peut pas, on peut plus ignorer les maladies entre guillemets exotiques parce que ça se passe maintenant dans les pays riches.
Oui.
Et ce qui est regrettable, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus d'investissements dans ces maladies quand ils sont plus prévalentes.
Quand elles nous touchent.
Oui, c'est ça.
Et là, c'est un peu égoïste.
Donc,
mais bon,
peut-être il y aura plus d'investissements de recherche et développement sur, et les ressources sur ces maladies-là qui peuvent bénéficier.
Parce que c'est vrai que ces changements climatiques, donc c'est... ils aggravent un peu l'inégalité d'accès aux soins.
Exactement, exactement. Mmh. Donc peut-être c'est une bonne nouvelle qui est plus d'investissements sur ces maladies-là. Par contre, avec les maladies non transmissibles, donc certains types de cancers, le cancer de poumon, les maladies respiratoires, de l'asthme, des allergies, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, le diabète par exemple. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est le changement climatique. Il y a un effet différent, c'est que le changement climatique impacte les déterminants sociaux. Donc, par exemple, la pollution ou l'eau potable, la capacité de faire les activités quotidiennes. Et ça, il y a un fort impact sur...
Ou les conditions climatiques extrêmes.
Exactement.
La canicule, les grands froids qui vont plus toucher, c'est ça, nos pays occidentaux. Alors justement, comment donc l'industrie peut-elle faire pour s'adapter justement à ces changements?
Oui.
Et donc penser à court terme, parce que jusqu'à présent, on pensait à court terme, non?
Oui, c'est long terme, parce que la recherche, ça prend long terme. Donc il y a plusieurs façons de réagir. D'abord, la stratégie devrait tenir en compte ces changements. Donc, d'étudier les maladies qui vont être beaucoup plus prévalentes, donc de mettre plus de ressources sur ces maladies, surtout respiratoires, certains types de cancers, qu'on voit, il y aura des maladies qui vont être beaucoup plus élevées dans le futur. Donc, il faut diriger plus de ressources sur ces maladies qui vont être impactées par le changement climatique. Ça, c'est évident. Après, la sévérité des maladies et le risque qu'elles posent vont changer dans une situation de chaleur chronique et de chaleur extrême. Donc, par exemple, les personnes qui ont une maladie cardiovasculaire, ils vont être beaucoup plus à risque.
Évidemment.
Sur une chaleur
extrême, bien sûr.
Extrême. Mm-hmm. Donc, il faut déjà étudier quels sont les effets de chaleur chronique et de chaleur extrême, et peut-être designer les tests cliniques différemment. De vraiment étudier qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là pour s'assurer que les médicaments sont adaptés. Et peut-être on a besoin de changer les médicaments existants, de trouver des façons d'administrer, de stocker ces médicaments-là. Peut-être qu'il faut découvrir des nouvelles médicaments pour ces conditions-là.
Et peut-être que l'intelligence artificielle va nous aider, donc va permettre de faire un grand pas vers...
Oui, il y a une forte chance que l'intelligence artificielle peut nous aider. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que de faire les études cliniques dans les pays en voie de développement, dans des conditions-là, c'est peut-être très cher. Mm-hmm. Et peut-être les laboratoires pharmaceutiques, ils veulent pas investir autant. Mm-hmm. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est une bonne façon de réduire les coûts.
Merci beaucoup, Jessica Wadon. Thanks a lot.
Merci, thank you.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.